Chapitre 4. Il était 11 heures environ quand il entra dans son cabinet. Plusieurs lettres, arrivées par le courrier du soir, étaient posées sur son bureau. Il les examina d'une main fiévreuse et jeta une exclamation. Il venait de reconnaître l'écriture de Gertrude, qui plusieurs fois lui avait écrit pendant la maladie de Madame de Plémont. « Enfin ! Enfin !» Il déchira l'enveloppe sans penser au timbre de la poste. La lettre n'était pas longue. Il la lisait debout et ses traits, altérés par tant d'émotions violentes, s'adoucissaient, se détendaient. « Nous nous sommes retirés loin de vous, lui disait Gertrude, parce que nous ne voulons pas vous entraîner dans notre malheur. Il faut nous oublier. Jamais nous ne reviendrons sur notre décision. Une femme doit s'effacer pour sauver du désastre l'homme qu'elle aime. Des choses que vous ne savez pas, des choses affreuses nous séparent pour toujours. Si vous les apprenez, et je sais que vous les apprendrez quand vous voudrez, mais ce n'est pas nous qui devons vous les révéler. Si vous les apprenez, dis-je, vous comprendrez, avec votre sentiment élevé de l'honneur, pourquoi nous fuyons les hommes, pourquoi nous fuyons le bonheur. Il faut se soumettre à la volonté de Dieu qui permet, sans doute, que ma vie ne soit éclairée par aucune joie. Du moins, vous vous consolerez, c'est mon vœu le plus cher, et si, un jour, je vous sais heureux, un rayon de votre propre bonheur viendra jusqu'à moi. La pensée d'avoir été aimée de vous sera éternellement la douceur de mon cœur endolori. Adieu donc, oubliez-moi, je vous en supplie, ne me cherchez pas. Une nouvelle circonstance nous oblige plus que jamais à vivre seuls et cachés. Que tout soit fini, et soyez bénis pour l'affection que vous m'avez offerte. Gertrude D. Bernard s'assit et médita chaque mot de cette lettre. Il la relut 20 fois avec attendrissement. Elle le calmait. Malgré les passages qui eussent paru significatifs à bien des gens, elle dissipait le doute épouvantable que son ami avait presque glissé dans son esprit et qui avait été, au fond, la cause de son emportement. Il revoyait le visage de la jeune fille, ses yeux bleu foncé, si intelligents et si pleins de douleur quand elle ne se savait pas observer. Tout à coup, il se rappela le timbre de la poste. Dans sa précipitation, il l'avait déchiré. Mais en rejoignant les deux parties, il déchiffra le nom de la rue du Temple, imparfaitement marqué. « Elles sont dans le marais, se dit-il. Quelle est l'église la plus rapprochée de la rue du Temple ?» Il passa dans sa bibliothèque pour étudier un plan de Paris et, découvrant l'église de Notre-Dame des Blancs-Manteaux, résolut d'y aller le matin même, car 1 heure venait de sonner. Il appela son valet de chambre qui se leva à la hâte. « Monsieur est malade ? » dit-il en entrant un peu effaré dans la bibliothèque. « Non, mais il faut que je sorte demain matin, ou plutôt ce matin, à 5h30. Prévenez le cocher. » « Mais, monsieur, Pierre dort depuis longtemps. Je le préviendrai à 5 heures, il aura le temps. »« Non, non, réveillez-le pour le prévenir. Il pourrait être en retard. Et surtout, recommandez-lui d'être exact. » Sébron expédia sa correspondance, régla sa journée du lendemain et passa le reste de la nuit étendu sur un canapé. Quand il sortit de son demi-sommeil, le jour paraissait. Un jour pur et limpide qu'il trouva livide, et en regardant autour de lui, il s'étonnait d'avoir attaché quelque importance à la possession d'œuvres belles et charmantes qui, dans la détresse de son cœur, étaient sans voix pour l'encourager ou le consoler. « Et lorsque je la verrai, se disait-il, comment lui apprendre cette énormité ?» Il monta en voiture avec le pressentiment de réussir dans ses recherches. Sauf la place des Vosges, il ne se rappelait rien du Marais, où il n'avait aucun client et n'allait jamais. Malgré ses sombres préoccupations, il remarquait l'aspect curieux d'un quartier que le vandalisme contemporain n'a pas encore entièrement ravagé. Son cocher, s'étant trompé de rue, s'arrêta pour se renseigner près d'un concierge qui venait d'ouvrir les deux battants d'une immense porte. Au fond et à droite de la cour, un hôtel, dont le grand air frappa Sébron, était habité par des fabricants de bronze. Une plaque à l'entrée de l'escalier principal indiquait à quel abaissement les revirements du goût et de la mode avaient réduit l'hôtel austère du Grand Lamoignon. Zebron se demandait si, il y a 240 ans, un homme passant dans ces mêmes rues, entrant peut-être chez le premier président au Parlement, avait eu à protéger, à défendre une femme adorée, accusée d'un assassinat. Absorbé, il ne vit pas que son cocher prenait la rue des Francs-Bourgeois, et il sortit brusquement de sa douloureuse rêverie lorsque la voiture s'arrêta devant l'église de Notre-Dame des Blancs-Manteaux. Cette église, ancienne chapelle du couvent des Guillemites, n'a qu'une nef sans chapelle latérale. La messe de 6 heures se disait donc au grand autel, devant un public d'une trentaine de personnes. Il demeura dans l'église jusqu'à 7h30, mais ne vit aucune femme qui, de près ou de loin, ressemblât à Mademoiselle de Plémont. Il alla dans la sacristie pour parler au bedeau. « Y a-t-il, tout proche d'ici, des chapelles où l'on entend la messe tous les jours ?»« Non, monsieur, je n'en connais pas. » « Je cherche une dame et sa fille qui habitent dans ce quartier et j'ai perdu leur adresse. Je croyais voir l'une d'elles à la messe de 6 heures. »«
Connue, » pensait le bedeau.
« Comment sont-elles, ces dames ?»
La jeune fille, qui assiste ordinairement à une messe matinale, est grande, avec des cheveux très noirs, un teint mat et des yeux bleu foncé. Peut-être vous a-t-elle questionné sur les habitudes de cette paroisse, car elle y est très nouvellement arrivée.
« Je ne me rappelle pas, monsieur. »«
Et vous êtes certain qu'il n'y a pas de chapelle dans un voisinage immédiat ?»«
Certain, » répondit le bedeau, du ton désagréable, trop souvent particulier à ce genre d'individu. Monsieur Zebron, dont l'attente ne pouvait se prolonger, descendit l'église pour se retirer, mais voyant un jeune abbé auprès d'un confessionnal, il accosta et lui expliqua le motif de sa présence à Notre-Dame des Blancs-Manteaux. « Pour une raison capitale, il faut que je retrouve les personnes que je viens de vous décrire et dont je suis obligé de vous taire le nom. Depuis 3 jours, n'avez-vous vu aucune femme leur ressemblant ? Aux messes matinales, il y a si peu d'assistants qu'il est facile de remarquer une nouvelle venue, surtout si elle contraste avec le reste de l'assistance. »
« Mon Dieu, monsieur, non, je n'ai remarqué personne. Vous me paraissez avoir entrepris une tâche bien difficile. »«
J'arriverai, il le faut. » L'abbé, remarquable par ses joues roses et son regard d'enfant, laissa percer quelque inquiétude et s'efforça de prendre une attitude sévère, bien que la physionomie de Bernard lui plût infiniment.
« Je suis le docteur Zebron, monsieur l'abbé. » Si vous connaissez mon nom, j'espère qu'il vous inspirera de la confiance. » L'air soucieux du jeune prêtre disparut aussitôt.
Qui ne connaît le nom brillant et surtout si honorable du docteur Zebron ? Répondit-il aimablement. Que puis-je faire pour vous, docteur ?
Mon Dieu, je ne sais, dit Bernard avec angoisse. Si vous aviez remarqué les personnes dont je parle, vous me le diriez.
« Elles ont l'habitude quotidienne de la messe, et vous êtes sûr qu'elles sont dans ce quartier ?»«
Oui, monsieur l'abbé, très sûr. »«
Reviendrez-vous demain matin, docteur ?»«
Oui, certainement. »«
Si j'ai eu lieu de faire des remarques utiles à vos recherches, je vous les soumettrai. Je suis toujours le matin auprès de ce confessionnal. »«
Merci, monsieur l'abbé. Aujourd'hui, je n'entre pas dans de plus amples explications, mais ces explications... Tous les journaux les donneront d'ici peu de jours, malheureusement. »
Zebron se fit reconduire chez lui, expédia un télégramme à M. Desjonchères en le priant de passer le soir rue de Vaugirard, puis il partit pour ses consultations. En route, il parcourut un journal du matin. Une colonne était consacrée à la mort de M. de Chantepie. « On savait, de sources certaines, disait le journal, que ce crime mystérieux avait été accompli par une femme jeune, belle, dont on taisait encore le nom. On ajoutait que des circonstances romanesques rendraient sensationnel le procès qui suivrait l'arrestation de la coupable, la jeune femme étant aimée d'un homme en vue à Paris.
Zebron se dit « Voilà le commencement. Demain, mon nom et le sien seront jetés au public. Soit, je parlerai moi-même et la défendrai avec toute l'énergie dont je suis capable. »
Il prévint ses malades qu'il se ferait remplacer le lendemain et les 2 jours suivants,
et soit réalité, soit par esprit prévenu, il crut que, dans certaines maisons, on l'observait avec curiosité. Le travail forcé d'une journée très chargée le détendit en lui faisant perdre de vue l'idée fixe qui le harcelait. Mais il fut violemment repris par elle lorsque, le soir, la lettre de Gertrude sous les yeux, il médita de nouveau chaque phrase et chaque mot. La veille, cette lettre l'avait calmé. En la relisant, il voyait qu'elle serait facilement une charge contre la jeune fille, par ses allusions à des choses affreuses et à une circonstance nouvelle qui les obligeait à se cacher. « C'est évidemment une allusion à son père, pensait-il, mais M. de Monvoy y puiserait la confirmation de sa propre logique. Il ne l'aura pas. » M. Desjonchères arriva fort anxieux. « Il y a du nouveau, Bernard ?»« Oui, elle m'a écrit, et d'après le timbre de la poste, elle sonne dans le marais. » »« Bien choisi, répondit l'avocat. C'est un quartier où personne ne va, mais qui n'est pas excentrique. Tu as cherché déjà ?»« Ce matin, et recherche vaine. Je me suis libéré pour 3 jours. Demain, si je ne la vois pas à l'église, je chercherai dans les rues avoisinantes. » « Elles sont sûrement dans le quartier, puisque la lettre est timbrée de la rue du Temple. »« C'est mon avis. Et cette lettre, puis-je la lire ?» Sébron hésita un instant. « Oui, lis. » Après avoir lu attentivement, M. Desjonchères tendit la lettre à Bernard et, sans mot dire, s'appuya le dos à la cheminée. « Eh bien, Henri, qu'est-ce que tu en penses ?»« Rien. » C'est simplement la lettre d'une femme qui aime et s'exalte un peu dans le sacrifice qu'elle se voit obligée d'accepter. Où vois-tu de l'exaltation ? La lettre est réfléchie, au contraire, et presque contrainte. Si elle avait osé, c'est sur un autre ton qu'elle m'eût écrit, j'en suis sûr. Je n'aime pas sa phrase sur la volonté de Dieu. Tu es superbe, vraiment. Elle parle en femme chrétienne qui puise ses forces dans un sentiment ou plutôt une conviction que nous ne partageons pas, mais que, du moins, nous pouvons comprendre. J'ai vu des femmes d'éducation soignée, qui jouaient du sentiment religieux pour mieux égarer le jugement des autres. Elle est incapable de jouer la comédie, incapable de la moindre fausseté, mais si ton parti est pris, n'en parlons plus. Mais non, mon cher ami, je n'ai pas de parti pris. Tu t'irrites et je le comprends. Pour moi, j'étudie chaque nouveau fait. Je doute, c'est vrai, car jusqu'ici, je ne vois aucune fêlure à l'accusation, sauf sur un point. Lequel ? Dit vivement Bernard. La conitine. Comment en avoir une aussi grande quantité en sa possession ? C'est incompréhensible. Mais enfin, elle en avait. Quant à cette lettre, je te concède qu'elle indiquerait une nature en même temps courageuse et délicate, si... Si une ombre noire ne planait pas sur chaque ligne. Sébron garda un assez long silence. « Tu la verras, dit-il, et ce sera suffisant pour te convaincre. » En ce moment, le valet de chambre prévint le docteur qu'on désirait lui parler. « Qu'est-ce que c'est ? Vous savez bien que je ne reçois jamais à cette heure-ci. » Il avait répondu avant de regarder la carte, mise sous enveloppe fermée, que le valet de chambre lui présentait. « Ah, bien, faites entrer !» « Un inspecteur de la sûreté, un monsieur Gardet, » dit-il à son ami. L'avocat fit un petit mouvement qui signifiait « Nous allons bien voir !» Très correct dans sa mise et dans sa tenue, l'inspecteur expliqua sa mission. Je suis chargé de découvrir l'adresse de Mademoiselle de Plémont, monsieur. Monsieur de Monvoy demande si vous avez des nouvelles. Je préviendrai Monsieur de Monvoy quand ce sera nécessaire, répondit Sébron d'un ton glacial, et je n'admets pas cette insistance. L'insistance ne vient pas du juge d'instruction, dit tranquillement l'avocat en regardant assez insolemment l'inspecteur qui lui était antipathique. « Monsieur Gardet agit pour son propre compte. »« Monsieur de Monvoy désire vivement aboutir. Ainsi, il m'est permis de demander au docteur Sébron si, depuis hier, il a quelques données. Il a pu recevoir une lettre qui simplifierait notre tâche. »« J'ai des données, en effet, mais j'entends agir seul. » L'air perplexe de l'inspecteur fit sourire M. Desjonchères. « Vous n'avez rien à craindre, dit-il. Ni moi, l'avocat, ni mon ami, nous n'aurions l'idée de prêter la main à la fuite de Mademoiselle de Plémont. Aussitôt l'adresse découverte, M. de Montvoy sera prévenu. » Tout en parlant, M. Desjonchères se demandait pourquoi les yeux de M. Gardet inspectaient obstinément le bureau de Sébron. La lettre de Gertrude était en sûreté, mais l'enveloppe avait été oubliée. « Ah » pensa-t-il, « il reconnaît l'écriture. » Les trois hommes étaient debout et Bernard dit sèchement « Je n'ai aucun renseignement à donner, par conséquent… » « Je pars, monsieur. » Plus prompt que M. Desjonchères, qui s'approchait négligemment du bureau, il saisit l'enveloppe. « C'est de Mademoiselle de Plémont, dit-il froidement. Je connais l'écriture. J'ai vu une des lettres de cette jeune fille à M. de Chantepie. Une belle écriture, élégante et hardie. » Profitant de la stupéfaction du docteur Sébron, il approcha l'enveloppe de la lumière. « Rue du Temple est datée d'hier. » « Voici enfin une indication. »« Donnez-moi ce papier immédiatement !» s'écria Sébron en marchant sur l'inspecteur. « Vous n'avez pas le droit de faire une inquisition ici. »« C'est vrai, docteur, et veuillez me pardonner. Ma tâche est difficile, vous ne voulez pas me venir en aide, je prends la liberté de m'aider tout seul. »« Vous allez me remettre cette enveloppe ou je… » Monsieur Desjonchères l'interrompit. « Bah, laisse-le faire son métier. » Il nous importe peu qu'il emporte ou non ce papier. La lettre a été mise à la poste rue du Temple, très loin de la demeure de Mademoiselle de Plémont. « Pourquoi très loin ? » demanda M. Gardet. « Parce que ces dames désirant se cacher, il est évident qu'elles n'ont pas choisi une poste tout près d'elles. Elles savent bien que le timbre les trahirait ou, pour ne rien exagérer, aiderait à les trahir. Elles n'ont pas pensé au timbre, croyez-moi. » répliqua l'inspecteur, et je suis convaincu que M. Sébron a déjà commencé ses recherches dans le marais. Serais-je espionné ? S'écria Bernard. Non, monsieur, on compte trop sur votre promesse à M. de Montvoy. Alors, si on compte sur ma promesse, pourquoi vient-on chez moi et pourquoi emploie-t-on des moyens dont la brutalité me révolte et contre lesquels je proteste énergiquement ? Sortez d'ici, monsieur. « Docteur, répondit M. Gardet, vous nuirez à la cause que vous défendez, d'abord si vous cachez la vérité, ensuite si vous vous emportez au point de ne pas vouloir raisonner. »« On m'accusera peut-être moi-même, dit Bernard ironiquement. Ce serait le digne corollaire de l'accusation imbécile portée contre Mademoiselle de Plémont. Allons, en voilà assez. Sortez, monsieur, et ne vous avisez pas de me donner des leçons ou… » M. Desjonchères l'interrompit et dit d'un ton grave. Nous nous engageons sur l'honneur, mon ami et moi, à conduire Mademoiselle de Plémont chez M. le juge d'instruction dès que nous l'aurons découverte. La police n'a donc point à s'inquiéter de nos mouvements. Bien, monsieur, je suis maintenant très tranquille. Il salua le docteur Sébron qui lui tourna le dos et disparut. Bernard eut quelque peine à se calmer car il étouffait de colère. « Heureusement, dit-il, que ce personnage n'a pas la lettre. » M. Desjonchères réfléchissait aux conséquences du fait qui venait de se passer. « Puisque tu veux absolument arriver avant la police, il est bien regrettable que l'enveloppe ait été prise. »« Comment si je veux absolument ? Vois-tu cet enfant prévenu brutalement des soupçons qui… » « C'est impossible, je ne vis pas en pensant à cela. » « Tu réussiras, Bernard, je l'espère de tout mon cœur. Mais les investigations commenceront demain dans le marais. Tu n'aurais pas dû opposer une résistance aussi vive. C'était confirmer ce policier dans l'idée que tu as l'adresse et que le timbre de la poste ne le trompe pas sur le quartier. » « C'est possible, mais mon regret est de ne l'avoir pas jeté par la fenêtre. » « Je parlerai au préfet de police. Je suis son médecin et nos rapports sont excellents. Nous verrons si un misérable agent de la sûreté a le droit, même en semblable occurrence, de mettre la main sur mes papiers. Droit ou non, je te conseille de ne pas donner une importance trop grande à l'incident. nous avons autre chose à faire. » Tu as raison, mais je ne suis plus moi-même, car je vis dans un état continuel de douleur et d'exaspération.
Je le sais, mon pauvre ami, répondit affectueusement M. Desjonchères, et je comprends admirablement ton état d'esprit. Il est affreux. Mais avant tout, il faut se posséder pour mener à bien l'entreprise. Demain matin, tu retournes à Notre-Dame des Blancs-Manteaux. Veux-tu que je t'accompagne ?
Non, je préfère agir seul. Si elle n'est pas dans l'église, j'irai dans les rues avoisinantes, de porte en porte.
Sais-tu si elles ont écrit à leur ancienne adresse ?
Je l'ignore. Au cas où elles auraient écrit à M. de Chantepie, la lettre serait entre les mains des magistrats.
Une lettre à la victime ? Voilà qui ébranlerait les soupçons.
À quelle heure pars-tu demain matin ?
À 5h30.
Attends-toi à voir M. Gardet là-bas.
Je serai filé, tu crois ?
C'est inutile, il ira tout droit à Notre-Dame des Blancs-Manteaux. Tu comprends que la police est au courant des habitudes de Mademoiselle de Plémont, elle aura la même idée que nous-mêmes, surveiller l'église.
Que faire alors ?
Rien, la chercher simplement, sans se préoccuper de l'inspecteur. Il te verra, mais te laissera agir, j'en suis convaincu. Tu seras surveillé, c'est tout.
Et s'il intervient ?
C'est un risque à courir, mais ne voyant aucun péril en la demeure, il usera de ménagement vis-à-vis de toi. D'ailleurs, son objectif est de la découvrir, non de l'arrêter. Il n'y a pas de mandat d'amener lancé contre elle. Quand il saura où elle demeure, il préviendra la justice et prendra de nouveaux ordres. Donc, plus j'y réfléchis, plus je suis rassuré. Tu es entièrement libre pour 3 jours ?
Entièrement, non. J'irai à ma clinique. Mais je n'aurai pas à faire de visite. J'ai travaillé aujourd'hui sans arrêt et Dieu sait si, dans mon état d'esprit, il est dur de traîner la charrue.
C'est un bien quand même.
Oui, dit Sébron avec fatigue, et je sais me dédoubler. Le médecin est à son devoir pendant que l'homme souffre amèrement quand il retombe sur lui-même.
Quelle que fût la compassion de M. Desjonchères, il n'osait donner sur le fond de la situation ni un espoir ni un encouragement.
Peut-être n'est-elle qu'une malade irresponsable, se répétait-il à lui-même, mais le cas est toujours terrible.
Et si tu la découvres, dit-il tout haut, tu viendras directement avec elle au palais, Bernard.
Directement, à moins que je ne doive pas rencontrer M. de Monvoy.
Si, demain, il sera dans son cabinet dès 8h. Moi également, j'irai au palais. Si tu as besoin de mes services, tu me feras demander.
Besoin de tes services, Henri ? Répéta M. Sébron avec étonnement.
Tu sais, répondit M. Desjonchères en hésitant, qu'on n'interroge pas un accusé sans la présence de son avocat.
Grand Dieu, en sommes-nous là ? S'écria Bernard avec éclat.
Non, j'espère, si Mademoiselle de Plémont fournit immédiatement un alibi. Mais enfin, au point où nous en sommes, le juge d'instruction, en effet, lui parlera tout d'abord d'un avocat. Maintenant, elle peut refuser.
Elle refusera, dit Sébron avec conviction, parce que, dès ses premières réponses, elle anéantira l'accusation.
C'est possible, répondit l'avocat d'un ton encourageant. Il n'ajouta point, afin de ne pas exaspérer son ami, que, par suite des circonstances, le juge d'instruction interrogerait aussitôt la jeune fille, mais que, normalement, elle devait être conduite d'abord devant le procureur de la République. Sans rien dire à Bernard, il quitta la rue Vaugirard pour aller causer avec M. de Monvoy et obtenir, si c'était possible, que le docteur Sébron, bien que suivi, ne fût pas entravé le lendemain dans ses projets s'il découvrait Mademoiselle de Plémont.